Joseph Malègue, Augustin ou le maître est là. Chapitre 3, l'arbre de science, deuxième partie, les plus heureux jours. Augustin ignorait ce pays nouveau, n'ayant jamais voyagé qu'entre sa ville d'université et le Cantal. On traversait des gares de triage, des deux côtés de la quadruple voie, des paysages au type inconnu glissaient sur des plans de l'air. Projections avancées de très grandes villes, usines, maisons ouvrières, noirs envers de demeures, courettes hideuses où séchaient des linges, carrefours au vif éclairage, cantonnés de café, telles étaient ces formes de géographies humaines, très différentes des formes familières. La vie y apparaissait, au premier regard, brutale, morne et gaie, autant qu'on pouvait l'explorer au galop de rapide. Plein de la saleté des fins de voyage, le compartiment de troisième classe bruissait d'excitation lassée. Un terne reste de jour, de sombres volumes de brume et la fixité filante des lampes à arc peuplaient ce crépuscule d'extrême septembre. Parfois, l'express sifflait longuement. Le bruit de la course changeait de timbre. Une vitesse frénétique perçait les gares. Des immobilités d'hommes et de mâles volaient en sens inverse, avec des lettres en bleu qu'on n'avait pas le temps de changer en nom de ville, aussitôt rejetées derrière l'épaule comme des noyaux de fruits mangés. En face d'Augustin, son père, ayant fumé la dernière cigarette et jeté le papier jaune du Scafferlati, étendait sous la banquette ses longues jambes, tandis que ses regards traversant le plafond du wagon fuyaient entre deux valises vers le ciel crépusculaire, Dieu savait où. Ils se taisaient tous deux, s'étendit tout ce qu'ils pouvaient se dire, et l'habitude qu'ils avaient d'être ensemble nourrissait sans parole leur communauté d'âme. Toutes les variétés de l'espérance, de l'élation et du bonheur avait peu à peu succombé au coup mutilé des sensations nouvelles, et même il ne restait de celles-ci que leur partie commune, l'élargissement et l'étrangeté. Paris fut là. Augustin, son père et leurs valises s'écoulèrent dans un fleuve humain composé du ruissellement de tous ces hommes et de bien d'autres sous les grands édifices de verre, de fonte et de nuit. Des gens savaient leur chemin dans ces remous, presque tous. Quelques-uns d'une sécurité inerte, des porteurs chargés de très belles valises au nom d'hôtels d'Italie ou d'Égypte, les messieurs propriétaires des valises le savaient aussi, d'une indolente science, partie infime de la notion beaucoup plus vaste des grands parcours internationaux. Deux messieurs en par-dessus de voyage et une jeune fille de type anglo-saxon, blonde, de très grande taille, regardait une locomotive immense au repos de 1500 km et qui poussait de grands sanglots métalliques à des intervalles mathématiquement égaux. Augustin s'aperçut qu'il remorquait, sans qu'il sût pourquoi, ce petit incident perdu. Les conversations paternelles de la dernière demi-heure lui revinrent. Si nous prenons la malle avec nous dans la voiture, c'est 40 sous et 5 de pourboire, et une demi-heure d'attente probablement. Si nous la donnons à Duchemin, c'est 50 sous et 6 de tramway. Nous prendrons la voiture. Le fiacre les mena au petit trot, sous une traditionnelle bruine, le long de boulevards sans nom qu'on quitta pour les rues sombres et populaires. Aux maisons d'angle, des plaques bleues peu lisibles épaississaient l'étrangeté des sites par les éclaircissements eux-mêmes obscurs. Monsieur Méridier ne manquait pas d'offrir quelques identifications ténébreuses qui, la minute d'après, renforçaient l'anonymat de Paris. Le fiacre longeait des maisons jaune-brun, d'une odeur de misère, des marchands de vin, des boutiques de légumes et des boucheries fermées. Ils furent arrêtés par un embarras de camions et de baladeuses. De tristes passants rapides les frôlaient. Un vieil homme pris de vin, en blouse blanchâtre, eut le temps de développer, juste contre leur roue, des réflexions pâteuses. Augustin entendit « Tout ça, c'est des problèmes. Ceux qu'on étudiait, ils savent. Moi, je sais pas. » Ce détail perdu dans la pauvreté des très grandes villes resta longtemps épinglé à ses premiers souvenirs de Paris. Ils s'évadèrent par des rues fort désertes, coupées d'embranchements moins peuplés encore, creusées à travers de véritables solitudes monastiques. Une vie multiple et ancienne leur soufflait des possibilités innombrables, austères et sans bonheur. « Ah ! Dit le père, voici le Panthéon. » Il formait dans le ciel une tache mate, haute et ronde, qui semblait une variété de la nuit. On entrevoyait des édifices d'un curieux Moyen-Âge, derrière des murailles aveugles. Le fiacre s'arrêta. Ouverte, la porte cochère montra un jardin à perspective courte, avec des colonnes en fonte et un jet d'eau sur la pelouse de droite. Un bec de gaz d'avant Auer sifflait dans une lanterne, au centre d'ondes successives de jaune et de nuit. Un homme en bourgeron bleu traîna la malle et dit « Pour quelle classe ? Première supérieure, préparatoire ? Monsieur le proviseur reçoit demain toute la journée. Venez plutôt le matin. Venez plutôt vers 8 heures. » Après ces précisions concentriques, il les cracha, reçut 20 sous et ferma la porte. Augustin et son père reprirent la valise et la portèrent à un petit hôtel sordide que le professeur avait occupé pendant son année de bourse d'agrégation. « Elle n'est pas trop lourde, papa ? Nous l'avons allégée de nos repas, comme dans la vie d'Ésope. » Toutes les traîtrises que recèlent les actes de débarquer, de prendre une voiture, de calculer ses pourboires, de décharger malles et valises, s'étant laissé désarmer, et toutes angoisses apaisées, Augustin eut conscience d'une légèreté heureuse dans la démarche de son père. Paris lui offrait une acceptation de sa personne qui allait presque jusqu'à l'accueil, et il se laissait glisser de nouveau sur les pentes de l'avenir. La rue, droite et large, ruisselait de lumière. L'enfant reprenait le sentiment de ses puissances et de quelque chose comme une solitude dans le chaos bariolé des premières foules. Il pleuvait tout à fait, de cette sorte de pluie qui glisse sur le vernis et la soie du bonheur sans parvenir à les mouiller. Des phrases 100 fois dites réapparaissaient par pure monotonie de joie. En latin et grec, tu es très au point. Les raffinements viendront tout seuls. En français et philosophie, la maturité est question de temps, que les efforts hâtent peu, pourvu bien entendu qu'on ait le don, qui ne t'a pas été refusé. Et l'on verra ce que l'on verra. Ainsi, il s'en allait sous la verse douce et dorée. Il est dînèrent dans un petit restaurant du boulevard Saint-Michel, d'éclairage étincelant et de prix minime, confondant confort et clinquant par désarmement devant la vie. Désarmement inégal, radical et de naissance chez le professeur, dont le métier ne faisait qu'imiter l'âme, provisoire chez Augustin et qui céderait sous des poussées venues de plus loin d'un autre canton de sa race. Le garçon enroué, cordial et boutonneux, portait des plaques de pelade dans ses moustaches. « Voilà, dit-il en les plaçant contre le vitrage, c'est le meilleur endroit pour voir les dames. » Ils choisirent un potage vermicelle, un merlan frit, hésitèrent entre une longe de veau marengo au cèpe et du poulet cresson. D'autres noms de mets magnifiques sur la carte violette tirée à la gélatine imitait la poésie des inscriptions illisibles. À mesure qu'avançait le dîner, une déception tentait, sans grand succès, de mordre sur leur idéalisme. Les noms étaient peut-être les mêmes que pour la cuisine maternelle, plus prétentieux seulement, mais la substance de ce que l'on mangeait, l'honnête, succulente et généreuse substance de mouton gras et de feu de bois, un simple reflet d'elle-même la remplaçait, un pur rien, une saveur négative, un goût de carton-pâte, qu'une traîtresse tranche mince leur abandonnait sur la langue en mourant. Ils s'accordèrent en fin de repas une glace vanille qui sentait l'eau. Paris roulait au verso des vitrages, derrière l'écran des rideaux aux crochets et aux plantes vertes. Traversant un grondement continu, certains sons brutaux à cassure nette, timbres de tramway ou cornes de véhicules mécaniques, transportaient vers des régions inconnues quelques parties infinitésimales de la formidable vie. Ils refusèrent le café, versèrent 6,30 francs dans les mains du garçon aux moustaches lacunaires et retrouvèrent dehors une pluie plus légère sous laquelle ils s'enfurent jusqu'à leur hôtel. Le père manipulait un exemplaire nouveau de l'éternelle cigarette. Les souvenirs remontaient en foule du fond de son immatérielle jeunesse. Il en reconnut quelques-uns au coin même de ce kiosque à journaux qui leur faisait face non loin d'un café célèbre. D'autres n'avaient pas assez de force pour dépasser les limbes intérieures. Il restait d'étranges petites choses molles, faites de ressurgences et d'oubli, d'actuel et de passé. Le professeur rappelait sa bourse d'agrégation. « Tu n'en auras pas besoin, tu auras mieux. »« Tu recevais combien, papa ?»« 120 francs par mois. »« J'en envoyais une trentaine à ta grand-mère que tu n'as pas connue. »« C'était certainement la pauvreté. » Ici, ce geste de distinction et de renoncement mêlé qu'Augustin connaissait trop. La grande pauvreté. Gêné par rien, ni argent, ni événement, il ne se passait rien dans ma vie. Ailleurs peut-être, oui, mais dans ma vie, non. Une fois par semaine, le samedi ou le lundi, je ne me rappelle plus, à cause du feuilleton dramatique, j'achetais le journal des débats. Un numéro de couleur rose. Je n'allais pas au théâtre autrement. Aussi, la vie parisienne m'a-t-elle toujours semblé de consistance théâtrale et de teinte rose. C'est tout ce que j'ai su d'elle. Mais l'Antiquité me donnait mes revanches. Le renouvellement des études historiques ne datait pas de si loin que nous n'en goûtions encore la fraîcheur. C'était la fin du temps de Fustel, celui de Gaston Paris, celui de Boissier. « J'ai regretté, continua-t-il, d'avoir été reçu dès ma seconde année, trop tôt. À 50 mètres d'ici, pourrissaient les baraquements en Gerson, véritable zone de fortifs dans les restes de l'ancienne Sorbonne. Le latiniste Riemann y professait « Il est mort en Suisse d'un accident de montagne. Ce n'est pas une mort de latiniste. Je lui dois infiniment. J'aimerais revoir avec toi ces baraquements, mais eux aussi ne sont plus. » Ils durent emprunter un instant, à cause de la pluie, l'abri d'une tente de café. Augustin pénétrait ainsi l'âme de son père, y retrouvant, sous toute la culture ultérieure, le fond triste et délicat. « Je suis injuste, continuait M. Méridier. Je garde aussi, envers Paul Desjardins, une grande dette profonde. Mais je ne sais pourquoi, ce soir, je préfère mon passé classique. » La même intuition leur vint à tous deux. Le père l'exprima, parce qu'il est le seul que nous ayons partagé. Mais il mêla les matières où se jouaient ses souvenirs et sa rêverie. J'aimerais savoir ce que fait ta mère en ce moment, au milieu de quelle besogne elle se débat en pensant à nous. Puis une émotion tout à fait imprévue. Quel que soit le temps qui me reste, tu seras là pour les petits. Et comme il voyait Augustin tout raidi de douleur subite, il ajouta d'un demi-sourire « J'espère que tu n'auras pas à le faire trop tôt. » Quand ils se réveillèrent le lendemain dans la franche pluie des rentrées, le jour gris-jaune leur montra deux lits d'un affreux acajou, des dessous de lits en dentelle pourrissante et un baldaquin du temps de Balzac. La chambre sentait une mince odeur bizarre et inexplicablement fade. Ils ouvrirent la fenêtre pour la chasser. Le spectacle, bien qu'Augustin le devinât banal et semblable à celui de tous les autres matins, lui parut triste, ce qu'il était. Et de plus, tout à fait particulier et spécial à ce jour, et tel qu'on ne pouvait vraiment le voir qu'une fois. Il faisait corps avec des impressions de rentrée, de séparation, de partie de vie révolue, à quoi se mêlait la souffrance causée la veille au soir par les paroles de son père. Tout cela n'était ni plaisant ni douloureux, grave seulement, au-dessus du plaisir et de la douleur. Longtemps après, quand Augustin voulut retrouver cette maison, rien n'y restait. Disparu l'hôtel borgne, charrié en de lointaines et poussiéreuses décombres, elle-même dissipée dans les terrains des diverses banlieues. 8 étages de meulière, de calcaire, de beauce et de ciment armé le remplaçaient. Ce côté est la partie noble de l'édifice. J'habitais par derrière, je te montrerai. Ils décidèrent d'explorer le revers. Ils s'y rendirent par des couloirs à carreaux rouges sur lesquels respiraient des cabinets infermables. L'odeur ne venait pas de là, bien qu'elle crût à chaque pas. La chambre où nous avons couché coûtait 40 francs par mois. Celle que nous allons voir, 20 francs. Un garçon frisé, au cou gras et trop blanc, granulé de petites véroles, caressait le carreau rouge avec un manche à balai habillé de chiffon. Ils les glissèrent à la tête par l'ouverture des portes. « Vous pouvez entrer, » fit le garçon frisé. Un haut mur strict barrait une courette à si courte distance que le garçon l'eût touché par la fenêtre avec le manche de son balai. Par-dessus le mur, des cimes d'arbres oscillaient dans un ciel jaune où couraient des vapeurs. « Le jardin des feuillantines, » dit le père, « celui d'Hugo. » Mais Augustin ne pensait qu'à l'odeur. On l'apercevait là, dans la pureté de l'état naissant mêlé à rien d'autre. La poussière l'atténuait sans en changer l'essence, comme l'eau tempère le goût du vin. Doucereuse, repoussante, indescriptiblement sournoise et évoquant le bouge, elle s'atténuait pour reparaître si Augustin changeait de place, faisait un pas ou un geste ou simplement y repensait. De consistance variable, tantôt mince et diluée, tantôt concentrée en empattement d'épaisseur presque touchable, elle étalait dans l'arrière-gorge, au centre des nausées, une onctuosité narquoise, une sorte de crème infâme et permanente, de substance inconnue, d'une fadeur à s'évanouir. « Mais enfin, qu'est-ce que ça sent ici ?» Soit qu'il devinât des voyageurs de passage, dont le séjour ne pouvait être abrégé par ce renseignement, ou qu'il y vit le moyen d'exprimer son mépris pour tous ceux qui, juchant à son propre échelon social, se faisaient néanmoins servir par lui, le garçon frisé émit sans hésitation un diagnostic compétent et froid. « Ça sent la punaise !»« Cela ne sentait pas ainsi autrefois, » dit le père, « pour autant qu'il me souvienne. »« Ça sentait un peu, » dit le garçon frisé, « ça sent davantage depuis qu'il vient des Russes. » C'était rudimentaire, sans doute, continuait M. Méridier sans répondre, « comme toute chambre à 20 francs. »« 35 !» rectifia le garçon. « Augustin n'aurait jamais cru que son père pût descendre à cette bassesse sociale où l'université laisse se dégrader les intellectuels pauvres. Perdu dans ses évocations gréco-latines, son père n'avait pas dû s'affecter beaucoup de cette horreur, ni peut-être même la sentir. Il fut entendu avec le proviseur qu'il entrerait en première supérieure préparatoire. Pourquoi se hâter? La préparation avait aussi son rythme. Suivait des conseils de simple bon sens pour lesquels le proviseur semblait quêter l'approbation de son père. Ils avaient l'air de 2 médecins consultants. Le vieux monsieur décoré qui parlait à Augustin regardait avec intérêt son maigre et sérieux visage. « Et puis, dit-il, changeant brusquement la conversation, pas d'excès dans le travail, n'est-ce pas ? Du sommeil, beaucoup de sommeil. Une veillée facultative existe. Je soulèverais mes internes si je la supprimais. Je n'ai jamais vu les très bons élèves en avoir besoin. Le premier feu de bois de l'année sifflait derrière leur dos. Un luxe administratif, rouge sombre et grenat, régnait dans la belle pièce grave. L'université imitait, quand il le fallait, la grande bourgeoisie. Ils s'en furent au Louvre, à Notre-Dame, et aussi, comme le père continuait à chercher ardemment sa jeunesse, tournèrent autour de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Monsieur Méridier ne s'y retrouvait plus. Augustin commençait de sentir autour de lui une force d'une complexité extrême, intellectuelle, économique, morale, pompant les sucs d'une immense histoire, escomptant d'infinis futurs. Quelque chose de sa vie intérieure grossissait au fond de lui à cette étonnante mesure, parce qu'il sentait le désir d'absorber le plus possible du contenu de cette force, tout l'art et toute la philosophie et toute l'histoire. Il avait besoin d'un précis rappel du bon sens calculateur qui fournissait les seconds moments de sa nature. À la messe de Saint-Étienne-du-Mont, ils se tinrent debout près de la balustrade du fond. Peut-être le père désirait-il éviter les 4 sous de chaise. Loin du cœur, tenu au bout d'une longue laisse, l'esprit d'Augustin vagabondait. Un ouragan de distraction soufflait dans sa pensée. Jamais la clochette n'avait paru plus froide et plus lointaine, ni plus comble et plus confuse l'immensité de ses futurs. Un huissier à chaîne, vieillot, décoré d'une médaille inconnue, annonçait un prêtre quêteur à coups de canne sourd. Entre deux rêveries, Augustin pensa à Renan, le méprisa, fut hautain avec lui, décida que, lorsque ses besognes scolaires seraient finies, eh bien, on verrait. Il subodora le retour de la fameuse question obsédante, celle de la vocation, celle de l'appel. Il remarqua la diction du vieux prêtre qui venait de prononcer en chair de très courtes paroles avec une articulation d'acteur. De cette froideur formaliste qui l'avait frappé dès le début de la messe, la cause était obvie. Un très subtil parfum janséniste fumait sous ses voûtes depuis 300 ans. À l'élévation, il se mit à genoux à même les dalles. Quelques remords en recueillement tardif, l'idée d'un temps perdu à rattraper le saisirent et, encore une fois, l'inquiétude de l'appel. Il lui sembla impossible que Dieu voulût l'arracher au légitime attrait de cette force infinie qui le sollicitait. Le devoir était de vivre dans le présent jusqu'à ce que tout fût clair. Dieu ne se réfractait-il point dans l'œuvre de Dieu? Son père rêvait, debout, un petit sourire sur sa figure fine, son âme revenue peut-être au temps de l'action morale et de Paul Desjardins. À mesure que s'avançaient les heures, leur sensibilité à l'un et à l'autre baissait d'éclat et de flamme exactement comme le jour. Augustin devait dîner le soir au lycée pour épargner le prix du repas. Ils allèrent, avant cette rentrée, payer l'hôtel. Le père, trouvant intolérable le retour à une chambre d'où son fils serait parti, préféra prendre en main la petite valise provinciale en toile grise, et ils la véhiculèrent ensemble autour de l'énorme panthéon. Ils ne se parlaient guère plus. Aucun mot n'aurait pu décharger la millième partie de ces minutes gonflées. Parfois, se faisait jour, non pas un soupir, mais une respiration audible, coupée d'étranglements et de ressauts, comme une petite cataracte. Une seule espèce d'entretien, les détails matériels. « Et toi, papa, où dîneras-tu ? » Il trouverait près de la gare du pain et du jambon à acheter. Et cette valise, comment la porteras-tu jusqu'au tramway? Il prendrait son temps. Augustin, raidi, tendu, se sentait pris dans un corset étroit. Il y avait bien un moyen qu'on pouvait essayer, le jeu des récitations factices, des mots qui parlent d'autre chose. Ille etiam cecos instare tumultus sepe monet. Penser intensément, cela pouvait provisoirement réussir. D'autres détails aussi servaient, le fiacre, l'odeur de punaise, et même tout ça, c'est des problèmes. À côté de lui, proie d'une bien autre détresse, M. Méridier marchait, soumis, mais chaviré, toute son âme en débâcle. Ses habitudes bien aimées, cassées et mortes. L'enfant qui sentait cela ne sentait pas tout. Il faussait l'âme de son père, il la faisait étroite. On parle de l'amour paternel ou maternel. Peu, qu'est-ce que ce mot « amour » bien trop ampoulé et étriqué à la fois pour dire le don total, détaillé, raffiné dans chaque fibre et dans la masse du cœur qu'un homme a fait molle et large exprès pour que puisse s'y étirer à l'aise tous les mouvements de son enfant. À peu près tout ce qui restait valide de sa vie, le père le laisserait là, derrière la porte cochère de ce vieux lycée célèbre. Refoulé sur le trottoir, lui et la petite valise grise qu'il allait maintenant porter seul, son abandon matériel et moral serait palpable comme un corps. Bien sûr, il y avait, consolatrice, l'assurance que le petit ferait ce qu'il n'avait su faire, lui le pauvre homme. Bien sûr aussi, il restait ses autres enfants. Mais que voulez-vous? Cet amour a ceci de particulier, qu'il foisonne autour d'un fils comme s'il existait seul. Et celui-là était le confident, l'intellectuellement, l'intimement préféré. C'est plus tard qu'Augustin comprit ces choses, dans le détail des reconstitutions posthumes. Sur le moment, il ne sentit rien que le tendre et sauvage baiser d'une moustache mouillée. Le camarade en uniforme qui le guidait coupa court à toute explication d'état civil scolaire. « T'es en cagne ? Moi aussi. » Il lui précisait la topographie nocturne. « Ça, c'est la cour grand A. C'est notre cour. » Il dardait sur lui les charbons luisants cachés dans ses yeux à chaque bec de gaz rencontré. « Comment t'appelles-tu » finit-il par demander. Puis sur sa réponse et l'indication de son ancien lycée, « Ah, c'est toi le prix de philo ?» Ainsi, la vie de camaraderie rude et insentimentale dévora les restes de l'adieu. L'étude lâchait des hurlements par toutes ses fissures. Le nouveau venu y plongea en nageur. Augustin ne fit qu'ajouter un garçon long et maigre à la série des isolés sur la frange de cette houle. Le chemin du dortoir lui montra une heure plus tard d'autres corridors en pierre de taille, une autre cour dont il ne sut si elle était aussi dédiée à quelques majuscules, et ce même papillotement de gaz jaune que chaque tournant d'escalier passait au suivant comme pour un jeu. Dès qu'il connut l'horaire des classes, Augustin répartit son temps avec la joie de nouveaux mariés plaçant leurs meubles. L'immense travail ne lui avait jamais paru plus fraternel. Chez son père, il n'était que la meilleure partie de lui-même. Ici, il absorbait sa vie tout entière. Il était sa respiration, sa nourriture, ses amours. Augustin se languissait loin de lui. L'acquis grandissait automatiquement, tout seul, comme une fortune de millionnaire, et les professeurs étaient les comptables. La grammaire grecque de Cor, elle-même, engendrait de la joie. Augustin eut la chance d'en trouver une d'occasion pour 3,75 francs à un étalage de la rue Cujas. L'exemplaire sentait la poussière et la nisette, mais rien n'en marquait sur les beaux mots grecs en marbre jauni. Dans la prose, dans les vers où ils se trouvaient enchâssés, ils respiraient comme des statues sacrées auxquelles ils eussent appartenu. Les après-midi du jeudi, grands emplacements vides d'un seul tenant, offrirent leurs terrains à bâtir aux quatre dissertations mensuelles. Quant au samedi soir, où, selon sa coutume, bourgeonnait le dimanche, Augustin le réservait pour l'histoire de l'art. Les salles du Louvre se prêteraient le lendemain aux explorations. En un an, il dépouillerait tout le musée. L'avenir, n'est-ce pas, était à lui. Mais la philosophie eut la place privilégiée. Dans l'étude du matin, dorée en hiver, azurée des mars, glaciale et désencombrée comme un prolongement de la nuit, se constitua toute seule une haute cellule monacale, aux cloisons invisibles sans doute, mais d'une admirable puissance de clôture. Le bruissement continu de ses camarades faisait partie de son bonheur, comme les moucherons de l'été. Il se trompait simplement d'heure et de saison et bruissait trop tôt. Monsieur D, petit, ventru, point velu et sourcils froncés, donnait cette année-là les leçons sur la philosophie française de Descartes à Biran, qu'il reprit plus tard dans ses cours en Sorbonne. Beaucoup moins élégant que M. Rubenson, il lisait ses notes sans coquetterie, de toute sa conscience tendue de brave homme. Mais le cours était de substance riche et nourrissante, sans atteindre encore la maîtrise intellectuelle de plus tard. Plein de comparaisons fouillées avec les autres époques philosophiques, il débordait ses monographies, et Augustin obtenait de M. D. des précisions que la première rédaction du cours ne comportait pas toujours. Toutes ces formes du réalisme spiritualiste, entre lesquelles son maître marquait clairement le progrès, eussent paru de plus en plus au jeune philosophe l'unique métaphysique possible, s'il ne se fût aussi laissé attirer par l'idée de M. Rubenson, les empiétements positifs sur les territoires mêmes de la métaphysique, une réduction du supérieur à l'inférieur, non pas dans l'être, mais dans la connaissance. Le nécessaire accord devrait ne rien perdre des deux sortes d'explications. L'étude était très calme. Quelques élèves, terminant leur nuit, dormaient franchement, le front sur l'avant-bras. Les becs de gaz chantaient comme des crapauds d'une variété spéciale, au long chant continu et ne brisant pas. Il faudrait étendre les conciliations leibnitziennes à un entrelac de causes secondes autrement complexes qu'au XVIIe siècle. Grande œuvre. Augustin ne doutait pas qu'un jour ou l'autre, là aussi, n'est-ce pas, l'avenir était à lui. C'était encore l'hiver. Il y avait conflit entre le gaz et le premier bleu de l'aube. Cette paradoxale et froide joie, dépouillée de gaieté, ressemblait à celle qu'il avait tant aimée le précédent hiver lorsqu'il gelait sous les trois couvertures devant les sphinx de M. Rubenson. Une grosse odeur de chicorée montant des cuisines commençait de sourdre sous les portes et de pénétrer la pensée pure. Ces petits châteaux intérieurs, splendides et solitaires, cédèrent bientôt sous la pression des barbares. Grossièrement classés, ils constituaient trois sortes, mais les variétés et sous-variétés créèrent presque autant de catégories que d'individus, et tout classement devint impossible. Les premiers, barbares de luxe, étaient des externes porteurs de vêtements élégants et de noms juifs. Une sous-branche se composait de ceux qui les imitaient. Venaient ensuite les paysans du Danube, fleuve dont un affluent coule en chacune des provinces françaises. Bruyants et hirsutes, ils usaient d'une onomastique toute semblable à celle que guidait Augustin. Mais tandis que chez ses anciens camarades du plateau central, ce mode d'expression participait de la sereine simplicité des réflexes, il s'accompagnait ici d'une affectée et rabelaisienne joie, soit qu'ils prétendissent à un contraste de vocabulaire et de culture, soit que leur surabondance de vie s'exprima comme elle pouvait. Une dernière série comprenait les silencieux, les réservés, ceux qui fuyaient les frottements. Augustin s'y classait volontiers. Mais des catégories différentes s'affirmèrent en composition française. Non les six pages officielles, mais les autres, occultes. Vers, prose, toutes les rêveries, tous les naturalismes. Maintes imitations caudataires polycopiaient les maîtres. Christiani, le camarade de la première soirée, qu'on appelait « l'ardente aux yeux noirs », faisait du Baudelaire très frénétique. Flaubert n'avait pas épuisé les belles couleurs dures qu'il posait à plat sur ses proses. Une part, non minime, en restait pour traverse. Quant à Levi Weil, sa manière consistait en petites phrases courtes parsemées de mots surannés. Chaque phrase se devait d'être une pirouette, ou une formule, ou une impertinence, ou une sécheresse. Il fallait qu'on y sente, disait-il, la présence d'une absence d'image. C'est ainsi qu'écrivait Voltaire, et aussi Beaumarchais, et aussi Anatole France, mais Renan l'avait gâté. Cela livrait du premier coup tout ce qu'ils avaient à donner. Mais ce n'était pas dans leur groupe qu'il fallait chercher les âmes profondes. Ni Paulin Zeller n'en faisait partie, ni Brühl, ni Bernier Félix, ni surtout ce taupin qui fréquentait en Cagne Pierre Lergillier, dont l'influence devait être si forte sur Augustin plus tard. Mathématicien de grand ordre et connu pour tel, on le savait capable de ce tour de force, suivre sans note un cours de spécial, les bras croisés, les paupières clignées sur son visage semé de sons. Méditatif et l'air endormi, pas une théorie qui lui demeurât obscure. Il les devançait comme Augustin avait fait pour Renan. Ses exercices montraient tantôt une généralité magnifique, tantôt une subtilité inattendue. Beaucoup servaient d'exemple. Mais de plus, il était un de ces rares esprits que les limitations scolaires ne limitent pas. Admiré des Cagneux, et même envié, sachant presque autant de philosophie qu'eux, il la sentait beaucoup mieux avec toutes ses correspondances scientifiques. C'était pour leur voisinage qu'il avait voulu rester dans ce lycée littéraire. Son succès fausserait les statistiques, ce qui faisait rire le proviseur, mais remplissait de joie le jeune professeur de spécial. On reprochait à celui-ci de ne pas se mettre à la portée de ses élèves. Mais qu'était cela pour Lergillier? Il suivait son maître dans la splendeur des plus abstraites fêtes, sans plus de besoin d'ajustement pédagogique que l'autre n'avait de souci d'en donner. Il fallut chercher quelque temps pour découvrir Paulin Zeller, jusqu'au jour où une composition française distinguée et délicate, malgré lui, le révéla. Rien non plus ne faisait remarquer le grand Brühl. Externe d'une lecture déjà considérable, dans des directions qu'ignorait Augustin. Massif comme un Suisse, très simple, il riait d'un bon rire populaire. On l'eût pris pour un modeste boursier, mais un de ces barbares de luxe révéla qu'il était extrêmement riche, fils de la banque hollandaise Brühl Frères et Arf Witson, et qu'il passait tous ses dimanches dans une université populaire assez moribonde dont il tâchait de galvaniser les derniers soubresauts. C'est lui qui appelait Bernier Félix, avec une ironie fraternelle, « variété sans serpent d'Héraclès enfant ». De très haute taille et plus vieux qu'eux, Bernier Félix logeait en une blouse noire provinciale un rude corps de gars charpentier. Il restait l'un des rares fidèles à cet accoutrement. Il conservait aussi l'habitude d'écrire son nom avant son prénom au coin de ses longs devoirs calligraphiés. Une propreté rougeaude colorait ses poignets, tel un cultivateur le dimanche matin. Des mains d'une force de tenaille sortaient, sans s'attarder à d'inutiles manchettes, directes et simples comme Dieu les fit. Aux séances de gymnastique, ce grand corps un peu gauche au repos réussissait infatigablement les rétablissements les plus durs, les grandes volées, les croix de fer, les ascensions lentes aux cordes lisses, jambes horizontales, par traction d'un seul bras, avec une lenteur savourante, dans une ivresse de force, une nostalgie de vie rude et rurale, qui lui aurait mis les larmes aux yeux si leur production et leur sortie avaient été compatibles avec d'aussi formidables barrières musculaires. Il était, après Augustin, l'un des rares capables d'écrire sans une faute 6 pages d'un latin, il est vrai, fort plat. En histoire, toutes ces dates, tous ces faits, chapelaient dociles. En philosophie, des plus médiocres. Dès que leur groupe fut constitué, Augustin dut le prendre à part, élémenter les questions à son usage. « Bernier Félix, disait le professeur de lettres anciennes, du bon sens, de l'équilibre. Pas assez de personnalité. Lisez, Bernier, lisez, mon ami. Le bon Bernier promettait, de tout son honnête visage docile. Il ne pouvait s'empêcher d'être ridiculement serviable. 10 minutes avant la classe, il donnait un coup de main au garçon balayeur, déplaçait tout seul d'énormes bancs massifs, un peu humilié de sa force. De même, il laissait au réfectoire avec simplicité les morceaux les meilleurs, et l'on savait qu'il dévorait le pain, les gras, les têtes et les arêtes de sardines, les pelures de gruyère, tout d'une faim jeune et magnifique. Sa personnalité ? Le vieux monsieur décoré au lorgnon de myope, chargé des langues anciennes, était peut-être mal placé pour la voir. Il eut fallu pour cela, comme le fit Augustin, pendant la récréation d'un des premiers samedis soirs, monter par le large escalier de bois ciré dont s'honorait le bâtiment en façade sur la rue. Un tapis beige à deux bandes rouges expirait de respect au premier étage, à la porte du proviseur. On s'élevait ensuite au domicile du censeur, sur des marches de bois brunies, dans une ascension sonore et sincère que l'humilité n'étouffait plus. Encore plus haut, le bois était brut, le carreau rouge. Aucun revêtement administratif ne déguisait la nature. La familiarité grandissait avec l'altitude. L'aspect des lieux atteignait le pittoresque et même le cocasse. Le couloir bas et sinueux qui naissait juste à la fin de la rampe se contournait dans l'ombre vers une destination inconnue et le plafond s'en gondolait comme une vague vue à l'envers. Y débouchait un nombre considérable de portes jaunes. Un relent d'urine traversait l'une d'elles, on ne savait laquelle. Le chercheur hésitait, crainte d'indiscrétion. Une superbe fenêtre mansardée, construite uniquement pour l'aspect extérieur qu'elle donnait au comble, majestueuse et disproportionnée, offrait son visage à la rue. De guingois par rapport au couloir, elle l'éclairait par force, malgré elle, et lui eût tourné le dos si elle l'avait pu. Elle refusait de le voir et de le sentir. Elle paraissait s'arranger pour qu'il ne lui fût jamais présenté. L'une de ces portes jaunes, prise dans un pan coupé du plafond, devait, pour tourner, perdre son angle supérieur comme une page de livre trop cornée. Fixée par 4 pointes, une carte de visite d'un autre jaune qu'elle portait en grosse bâtarde bon marché le nom de l'occupant, l'abbé Herzog, chanoine honoraire, et au-dessous, écrit à la main, « aumônier ». C'était un vieil homme doux, ascétique et loin du monde, possédant le minimum de corps qu'il fallait pour être vu, construire son espace, sentir le froid, le sommeil et le besoin de mourir. Sans grand contact avec le vaste lycée, la première fois qu'il vit Augustin, il le fixa de ses yeux fatigués. La grande affection générale et méconnue qu'il portait à tous ses élèves, les très rares qu'il voyait et la masse de ceux qui ne venaient pas, ne l'avertissait pas très bien des mots à prendre pour s'ajuster à celui-là. Il se tenait devant un tableau-bureau vide et rase, d'une netteté abstraite qu'on embrassait aussi bien en fermant les yeux. Mais des livres tapissaient toute la muraille et sans doute aussi toutes les pièces du petit appartement. Encastrés entre les rayonnages, dissimulés dans l'ombre, un Christ brun se cachait, s'effaçant devant toute cette sagesse humaine, comme s'il craignait d'abuser. Ce fut là qu'Augustin vit Bernier Félix. « Pour les jeunes de maintenant, disait l'abbé, c'est un prêtre de formation sociale qu'il faudrait. Un pauvre vieil homme comme lui n'était pas à sa place ici. Qu'on le mette dans quelque bibliothèque de grand séminaire, dans quelque couvent de religieuses adoratrices. D'utilité, continuait-il, je n'en ai guère d'autre que l'humiliation de me trouver chaque matin en face de mon inutilité. » Il leur parlait avec une douceur confuse et riante, comme si c'était lui qui cherchait auprès d'eux des encouragements. Augustin ne se rappela bientôt plus au bout de combien de minutes la conversation dériva vers le sujet capital. À vrai dire, Elle y tendait avant même qu'il eût monté les 4 étages, et c'était quand elle n'en parlait pas encore qu'elle dérivait. « Il doit être renseigné, » pensait-il, tandis qu'il s'entendait lui-même protester contre l'idée d'utilité supérieure qu'aurait eu un aumônier social. Il insistait au contraire sur l'urgence essentielle de l'apologétique biblique. « J'ai, dit l'abbé, 40 ans d'exégèse. Avec ou sans elle, l'essentiel me semble toujours être un acte d'amour de Dieu. » Augustin fut déçu. Ce n'était pas tout à fait cela dont il s'agissait. Le respect qu'il ressentait pour l'aumônier fit qu'il n'osa pas le dire. Bernier Félix avait prêté à la conversation un intérêt docile, ne dépassant point celui qu'il eût montré pour tout sujet scolaire. Augustin ne se trompait pas en croyant l'abbé renseigné. Il l'apprit par des camarades de seconde année, moins vieux en réalité que ne le faisait croire son extrême maigreur. Il n'atteignait pas 60 ans. On le savait fort instruit dans sa partie universitaire, la philosophie de langue allemande, qu'il manipulait avec l'aisance de l'alsacien bilingue. On le devinait de plus d'une érudition prodigieuse dans le canton de ses recherches personnelles, qui était l'histoire de l'Église au 1er siècle. Pédagogue singulièrement adroit, il avait confiné ses conférences à la période moderne et contemporaine, la seule qui intéressa ses élèves, mais il les nourrissait de pénétrations d'histoire générale si substantielles que le souvenir d'une fastueuse note d'oral sur un sujet incidemment traité par lui se transmettait d'année en année. Il ajoutait à la fin de ses 3 quarts d'heure officiels, dans le brouhaha des cahiers pliés et des bruits de chaussures, « Toutes ces recherches d'érudition ne nous mettent qu'au vestibule de la vie religieuse, qui est « amour de Dieu ». Seul nous y ferait pénétrer une étude psychologique des saints. » Mais ces mots apparaissaient comme une clause de style, la nécessaire et formaliste clochette destinée à rappeler que l'auteur était un curé. Un mois après environ, Paulin Zeller informa Augustin que, suivant sa suggestion, l'aumônier désirait voir ceux des catholiques qui disposeraient d'une heure par semaine pour des études d'histoire des origines religieuses. Ils y vinrent 7. Seuls Largillier, Bernier, Zeller et Augustin furent fidèles. Des conditions matérielles assez difficiles allaient affecter les leçons. Il s'agissait de ne prendre aux disciplines aucun autre temps que celui de leur présence, de n'empiéter sur aucune étude, encore moins sur une classe. Le jeudi et le dimanche étant eux-mêmes promis à d'autres tâches, la récréation de 12h30 à 1h30 fut à peu près la seule partie du jour qui s'offrit. C'est là qu'Augustin entendit la première mention des manuels d'ancienne littérature chrétienne et les noms d'Arnack, de Kruger, d'Holtzmann, dont il devait plus tard si souvent feuilleter les volumes. Il fit aussi connaissance avec les Français, Duchesne, Loisy, Lagrange et Batifol. Il n'avait pas d'autres indications sur la manière dont ce sujet, radicalement nouveau pour eux, était dominé par le vieux savant que la simplicité extrême d'un exposé où ne restait aucune obscurité, aucune allusion inexpliquée. Dès que la porte jaune s'ouvrait, au coup de sonnette longuement tremblant de petite épicerie rurale, l'air s'emplissait d'une odeur de vaisselle et de chou-fleur insoupçonnée dès le palier. La première partie du parfum attestait les occupations de la bonne et la seconde les goûts culinaires qu'elle imposait à l'aumônier. Ce mélange n'accompagnait pas la leçon d'un bout à l'autre. Il filait avec tact à l'anglaise après le premier quart d'heure de familiarité. En revanche, le tapage des assiettes déplacées et replacées, ou l'ouverture et la fermeture des meubles, le glissement sifflant du balai persistait derrière le mince briquetage, traversait les paroles de l'abbé, haute prière parmi les bruits de frères converts. Bien qu'il s'exagérât la poésie de la femme d'ouvrage, Augustin goûtait cette mystique compartimentée. La leçon terminée, le vieil homme récitait le Salve Regina, les yeux fermés, ses deux mains jointes réunissant leurs os minimes. Augustin ne se rassasiait pas de cette figure pâle et sereine que de rares cheveux couvraient d'une sorte de mousse grise, intermédiaire entre la calvitie et la chevelure. En comparaison de cette heure, une bonne part du travail quotidien paraissait d'essence inférieure et de catégorie seconde, zone de vin moins fin autour d'un cru célèbre. En majorité, les élèves se montraient, au point de vue religieux, assez sombres de renseignements sur eux, à part certains cas extrêmes, trahis par des débordements verbaux. Augustin mangeait à la même table que Christiani. On servit, un vendredi, des haricots et des merlans. Comme Christiani criait « ce boulot de salle cléricale » ou quelque exclamation de la sorte, Augustin, interpellé, dit que c'était une opinion religieuse de type salivaire et, comme telle, discutable. Des bruits de grosses vaisselles incassables traversaient les mots et les hurlements. Les initiatives de l'affirmation partaient presque toujours du clan libre-penseur et les voix catholiques ne se faisaient entendre que pour les répliques. « Curieux phénomène, » remarquait Augustin. « N'est-ce pas un peu de lâcheté ?» demandait Bernier. Opinion que Paulin Zeller nuança avec sa délicatesse habituelle. Nos certitudes sortent plus que la leur des régions intimes de notre conscience. On aime peu lever le voile sur ces retraites. Augustin appuyait. Leurs opinions à eux, justes ou fausses, ce n'est pas la question, sont produits intellectuels plus qu'œuvres de sensibilité. Comme telles, elles recherchent volontiers précision et contrôle dans l'accord avec autrui. Moins personnelle et plus commune, dans tous les sens du mot, l'exposition en place publique est de leur nature. « On n'en aurait que plus de mérite, » insista Bernier, dont la simplicité fit souvenir Augustin de l'abbé Amplepuis. Il ne dit rien, mais se rappela la conduite de Bernier. Les dimanches des premières semaines, avant qu'il eût obtenu la permission de sortir dès 7 heures du matin, il ne déjeunait pas. Il passait des cubes de pain à la presse hydraulique de ses mains et les empochait. Il méprisait le chocolat dominical. Puis encore, il transmettait stoïquement aux voisins le savoureux liquide. La fumée du sacrifice encensait ses narines, Jupiter hiératique, immobile et berné. Augustin ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'il l'eût vu, un jour, entrer à Saint-Étienne-du-Mont, à la première messe basse qui suivait sa sortie, et y communier. Ô Bernier Félix, naïf, fort et doux, Héraclès enfant, vous aviez, vous aussi, la pudeur de votre vie intérieure. De noyau presque aussi stable qu'un corps chimique, le clan des Talas, comme l'argot de l'école normale appelait les catholiques, finit par se composer essentiellement de l'argilier Paulin Zeller, Bernier et Augustin. Des vétérans de la grande cagne composés d'élèves ayant concouru les années précédentes s'y joignaient. Broule y fréquentait volontiers, quoique juif. Leur promenade dessinait dans la cour Grand A une trajectoire à deux rebroussements. Le premier, on contacte des colonnes en fonte supportant le préau côté Panthéon, et le second à l'autre bout, quand la rangée des cabinets vous insultait de ses souffles. Broul propagandait pour son œuvre. Lui et Augustin étaient les têtes philosophiques de la classe. Inférieur à Augustin dans tout ce qui relevait de la culture classique, et même en philosophie, pour l'acquis et la netteté de pensée, mais bien plus que lui au courant des choses d'art, de musique et de culture étrangère, il avait surtout infiniment plus d'expérience réelle. De la vie parisienne et internationale, dont Augustin ignorait tout, ainsi que des réalités économiques, vu du côté de grandes affaires, il parlait avec une allusionnelle bonhomie, toute sa ferveur étant de l'autre côté. Augustin, en face de lui, se sentait parfois un enfant. « Je te voudrais avec nous, lui disait-il au cours de ses plaidoyers socialistes. Si tes croyances catholiques dominent le contingent, il faut aussi qu'elles s'y épanouissent. Je n'aime pas beaucoup les actes de foi hors de leur seule place indispensable. Cochon ! Cria Broul. Augustin fit un haut-le-corps. Mais l'exclamation où rien n'indiquait le pluriel s'adressait au taupin, dont une équipe, pour flétrir les fréquentations cagneuses de l'argilier, venait de lancer contre eux un ballon de football qui atteignit Zeller. Si j'acceptais, voyons, je cherche une belle phrase noble, à cause de toi. Si j'acceptais les offres spirituelles du socialisme, je ne tirerais certainement pas du donné tous ces renseignements techniques. Mon risque serait fou. Broul, une manie qu'il avait, saisit par un bouton le veston d'Augustin et se mit à tirer dessus, comme s'il l'entraînait par le truchement de ce bouton. Il y a 20 siècles, le risque que courait Jésus transcendait sagesse et folie. Ça ne t'ennuie pas que je te parle de Jésus en termes laïques ? Demanda-t-il soudain, d'un ton de respect profond, incertain des libertés qu'il pouvait prendre, en quoi il rappelait M. Rubenson. Pas du tout. Mais ne confonds pas et laisse mon bouton. Les techniques économiques ne sont pas objets de révélation. Jésus n'y est pas un exemple. Signé Augustin Méridier, membre de l'Institut, murmura Zeller du bout des lèvres, tout en frottant son bras contusionné et sali. On stigmatisait parfois de cette plaisanterie le manque de souplesse d'Augustin, sa sécheresse péremptoire et la sûreté de ses succès scolaires. C'est curieux, remarquait Broul, je vous imaginais plus mystique que discursif, plus fin que géomètre, plus perméable aux raisons du cœur. Oh, qu'ils sont embêtants! On vous l'enverra dans l'autre cour, cria l'argilier, visé et atteint cette fois. Convertissez-vous l'un l'autre, chacun conquérant son ami, continua-t-il en ce curieux dialogue pendulaire. Mais le genre de reproche que lui adressait Broul ne pouvait déplaire à Augustin. Il y discernait une garantie d'efficacité pour sa future apologétique. Et aussi, un coup de sonde assez profond dans ce qui était sa véritable nature à lui, un certain goût du positif, une certaine parenté avec les gens des planèzes. Un intellectuel n'échappe pas plus qu'un autre à sa race, mais il l'explore mieux. « Sais-tu que tu cites du Leibniz ? » fit-il à l'argilier. Comme il donnait la référence, le ballon le heurta en plein dos. « Débarrasse-nous-en, Bernier !» fit Broul en soufflant de mépris. Lancé dans le ciel d'un coup précis et tout-puissant, le ballon diminua sur les plans inclinés de l'air et commença juste au-dessus d'un bâtiment à 4 étages, la seconde branche de sa parabole. Bernier s'était comme jeté à sa suite. Une fraction de seconde, le sol brun apparut sous la ligne brisée de ses 2 jambes. « Ah, les rosses !» cria un gros taupin en se jetant sur eux. Mais une musculature d'un autre ordre le heurta comme une muraille. Des prises souveraines domptèrent ses poignets, brisèrent ses soubresauts, le retournant d'où il venait, d'une invitation irrésistible. « Fous le camp !» dit Bernier d'un ton suave. Vers le milieu de l'année, Broul parut évoluer. Il rencontrait Augustin le dimanche dans l'une des salles du Louvre. Ils s'en retournaient ensemble à l'heure où l'on fermait le musée, un peu avant le soir. Remontant les quais avec son ami, Broul admirait Notre-Dame et Saint-Séverin d'une admiration enfantine et ingénue, étonnante chez ce garçon qui connaissait tant d'autres églises et s'était promené à travers l'Europe. Il interrogeait plein de bonne volonté, mais, interprétant tout en symbole, avait besoin d'explications précises et de tri rigoureux. Il entrait avec Augustin, le regardait prendre de l'eau bénite, s'étonnait des lampes du tabernacle, s'arrêtait devant les ex-voto de la Vierge, lisait à voix basse leurs libellés, les innombrables santé recouvrées, les grâces obtenues, les merci à ma mère, appuyé d'initiales et de dates, seules identifications de ses gratitudes anonymes. Pendant qu'Augustin priait devant la chapelle de la Sainte Vierge, il attendait debout parmi les colonnes capricieuses de l'abside. Ce parfum d'encens bon marché, cette fumée de bougies pauvres, cette humble odeur de vieilles gens et de fonds de bénitiers qui peuplent les églises populaires remuait obscurément son cœur. Une certaine émotion gênée sortait de son grand corps et de son manque d'habitude. « Quelle magnifique poésie !» disait-il. « Tous les soucis matériels, la santé, le pain quotidien, et aussi le besoin d'art et de joie, toutes les solides nécessités humaines restent reconnaissables sous cette fleur divine, la font tenir debout, lui donnent consistance et rigidité. Quelle profondeur !» Mais Augustin expliquait que ce n'était pas là le cœur de la vie religieuse. Sa pensée voyait clair et tranché. Si tu veux, deux vers expriment les différences. De ton côté, j'aime la majesté des souffrances humaines. Mais de l'autre, qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ? Peut-être, faisait Broul, rêveur. Il se disait adieu sur le boulevard Saint-Michel. À travers une bruine couleur acajou et criblée de lumière, Broul sautait dans l'un des tramways qui filent vers le Trocadéro. Augustin voyait s'enfuir sur l'impériale parmi les occupants des places à trois sous, le col relevé et l'air frileux, le fils de la grande banque hollandaise, Broul frère et Arfwitson. Très loin encore du vrai concours, plein du double et profond charme du travail et de l'amitié, toute question politique et religieuse s'offrait ainsi à leur jeunesse. Le modernisme et les socialistes fabiens, l'évangélisme tolstoïen et la critique de Poincaré, la sociologie de Tarde ou de Sorel et l'individualisation des peines, tout se fondait dans la même carence de données de fait et la même précision abstraite. Les sujets perdaient en leur discussion le relief et le poids des choses véritables autour desquelles se concentrent les fins d'argent et de bien-être et tous les durs intérêts des hommes. Ils s'idéalisent dans l'air léger de la raison pure qu'aucune expérience n'épaissit. Les meilleurs n'ignoraient pas ce paradoxe. Ni l'argilier, ni Augustin, ni Brûle ne s'y méprenaient. Mais précisément cet irréel les enchantait. « Dans notre enfance, disait l'argilier, nous jouions à l'explorateur et au soldat. Nous continuons de jouer. » La cour Grand-A, la cour aux trois préaux, surpeuplée, salie de boue, flagellée de pluie, où les groupes se gênaient et se bousculaient, leur était symbolique. Fermée à la rue, séparée de la vie pratique par de brutales murailles, largement ouverte sur le zénith. Les quatre amis avaient spontanément choisi le préau de l'Est, le seul d'où on put voir le Panthéon et les rondeurs de son dôme. Ils sentaient le vague besoin de quelques paliers intermédiaires entre le sol et l'infini. Très voisin des cuisines, l'odeur des mets y distinguait les jours. Un fumet de ragoût et de bœuf aux carottes, spécial au mercredi, prit place parmi les plus chers souvenirs de leur jeunesse. Augustin y parlait de l'extrapolation de la contingence, cédant au curieux plaisir qu'apporte le langage mathématique au littéraire dont ce n'est pas le métier. Le voisinage de l'argilier lui rendit le double service d'être informé et prudent. Suivant des idées qui n'ont maintenant rien de bien nouveau, loin que la conscience puisse provenir d'une complication du processus déterministe des choses, c'est elle, disait-il, qui se ferait un chemin à travers leur contingence. Mais pourquoi arrêter à la conscience empirique cette ascension de l'univers? Comme une autre bourrade les jetait l'un contre l'autre, ils prenaient finalement le parti d'aller sous la pluie finissante couper d'eau leurs abstractions sèches en choisissant la moins éclaboussante des flaques. « Quel degré supérieur vois-tu dans les faits ?» demandait Brûle. « Nulle vie de saint qui n'en déborde. On y touche l'absolu dans l'expérimental. Je pense à une agiologie. » Et il citait la vie de sainte Thérèse par les carmélites du diocèse de Paris, deux volumes, 400 pages environ chacun, épuisés pour le moment. Sans qu'ils eussent besoin de changer de direction, les gros yeux de Brûle se déprenaient de tout point immédiat, s'accommodaient pour l'infini. Tous ses traits viraient au rêve. Il partait pour ces longs voyages idéalistes dont les gens de grandes affaires, à la seconde ou troisième génération, sentent parfois le vague et puissant attrait. C'étaient de beaux jours ardents, chargés et pesants d'avenir. Augustin commençait des joies profondes et de formation lente qu'il n'avait jamais éprouvées encore. Tout s'y fondait. Les discussions entre intelligences de son modèle, la même candeur posée sur diverses doctrines, le même café au lait, amer et lourd de pain. Au dortoir, les mêmes lits minces, les étroites cuvettes où basculait parfois le travestin. Ne connaître que des buts généraux et désintéressés, savoir qu'il en existe d'autres, ignorer comment ils sont faits, participer au même travail et à la même jeunesse, sentir pousser chaque jour de quelques nouveaux centimètres les fortes racines de l'amitié, douce chose qu'on voit mieux plus tard, d'un peu plus avant sur la route et comme dans les tableaux de carrière, à travers ces buées qui s'évaporent de la vie. La leur prenait l'aspect d'un paysage uniforme et sans ombre, enivrant d'immensité, sans autre incident que son infinitude même et la joie des grands galops libres. Augustin ne se sentit jamais plus heureux. Une certaine assurance en ses forces et dans les intentions du destin, un mélange de foi, de pitié, de raison, un bonheur terrestre ennobli de participations éternelles, toutes les incertitudes ayant le visage de l'espérance, c'était de beaux jours. Il n'y manqua même pas cette espèce de fierté que donne la vue d'un grand homme. Il vint, dans les premières semaines de mai, à une classe de grec du bon monsieur Poiret, qu'on appelait le père Poiret. Un domestique entra, porteur de deux chaises, suivi d'un vieux monsieur robuste et voûté, encore très vert, au visage vigoureux et bon. « Ah !» dit monsieur Poiret en se levant, « voici monsieur Lachelier. » C'était sa dernière année d'inspection générale, qu'il conduisait aussi bien en lettres pures qu'en philosophie. Le vieillard illustre et si simple s'assit sur l'une des chaises dont l'autre resta vide, tout seul familièrement. « Ah, c'est Édipe Roy qu'on explique ? Eh bien, mes enfants, continuez, je serai content de l'entendre. » Tous les élèves le fixaient d'une curiosité passionnée qui ne se déguisait pas. Lui leur riait comme un grand-père. Le père Poiret le désignait des yeux. « Donnez donc un texte à monsieur l'inspecteur, voyons. »« Oh !» dit le grand philosophe, avec une bonhomie paternelle, « les vieilles gens de mon temps savent ça par cœur. » Comme Augustin, tout près de lui, tendait son livre. « Vous aussi, lui dit-il, bienveillant et amusé, vous savez peut-être cela par cœur. » C'était la fameuse strophe chantée par les vieillards thébains où l'homme ne connaît d'autre bonheur que celui de se croire heureux. « Au moins ce passage, » fit Augustin rougissant. Bien qu'il n'eût jamais cessé de compter sur une préparation de 2 années, Augustin se présenta dès la première parce que c'était la tradition. Le concours commençait en juin. On attendait jusque vers la fin de juillet le résultat de l'admissibilité dans des conditions inhumaines, parfois d'affreux jours torrides et anxieux. Le ciel se teignait tous les soirs d'un même rose orangé, qu'on levait sans doute comme une nappe pour l'étaler le lendemain à la même heure sur le même implacable azur. La cour Grand-A avait changé d'aspect. Tous les éliminés partis, une vingtaine d'admissibles, sans veston ni gilet, recroquevillés dans ce qu'ils rencontraient d'ombre, se posaient des questions d'oral sur un programme d'histoire insensé, allant de Menès, roi d'Égypte, à la guerre russo-japonaise. Tous de seconde ou de troisième année, ils montraient une résignation ou une insouciance affectée, brûlés l'une et l'autre dans la même fièvre triste qui était l'âme de ces lieux et de ces jours. Admissible comme eux, Augustin vit partir avec regret Bernier, Paulin Zeller, Broule, qui avaient échoué. Il décida de ne pas se préoccuper d'un succès final prématuré et continua des études de philosophie et d'histoire, coupées de visites au Louvre. Il avait entrepris, sur les conseils de M. D., les ouvrages de Durkheim. Le suc s'en exprime vite. Une lecture soigneuse suffit, mais il faut la faire. Elle est assez longue. Elle durait chaque matin de 8h à midi. Après quoi, il était à l'école flamande, dans la liesse de Rubens. Il savourait un plantureux concret de joie, des détails éclatants de grasse vie, perçant les conventions mythologiques, la pesée de lourds pieds roses sur des volutes de nuages. À l'oral d'histoire, les souvenirs non rafraîchis de sa quatrième démêlèrent mal les relations d'Othon III et de Crescensus. L'examinateur, un spécialiste du Moyen-Âge, le fixait de ses yeux doux, presque effleurés par le poil extrême d'une barbe immense. « Vous êtes de première année, monsieur Méridier. Tenez-vous beaucoup à entrer à l'école dès novembre prochain ? Votre composition écrite est juste, précise, nourrie, équilibrée. Ce sont des qualités. » Il caressait d'une main baguée sa barbe douce et colossale. « Un peu sèche, cependant, froide et ascétique. Épanouissez-vous, monsieur Méridier. Offrez-vous à la vie. » Des silences séparaient ses conseils. « À votre âge, voyons, la vie est belle. » Il le fixait de ses yeux d'herbivore sauvage, silencieux amant de la vie, gardant derrière leur douceur maint souvenir secret de sa beauté. Il cessa de caresser sa barbe et lui sourit. Le candidat comprit qu'il ne passerait pas. Augustin n'eut pas à regretter ce retard. La classe de seconde année, la grande cagne, se fit essentiellement pour lui et quelques autres, parmi lesquels des nouveaux venus de lycée concurrents. Christiani, Broule, Paulin Zeller réapparurent. Mais on ne revit pas Bernier. L'Argilier, tête de liste aux deux écoles à la fois, Normale Sciences et Polytechnique, ne devait revenir que comme visiteur sur la cour Grand-A, où il avait avec eux tant de fois tourné. Paulin Zeller était externe désormais. Le groupe des Tala se reconstitua tardivement et mal. Il recevait un coup rude. L'abbé Herzog, très malade, avait quitté sa fonction et se soignait on ne savait où. Augustin fut atterré. Il se reprocha de n'avoir pas tiré du vieil aumônier tout ce qu'il aurait pu. Qu'était-ce que 11 leçons? Juste de quoi s'assurer par les certitudes d'un autre? Il revoyait la maigre figure sereine, les yeux bleus pénétrants, calmes et déjà éternels. « C'est une grande perte, » disait-il. « Très grande pour moi, » fit assez énigmatiquement Zeller. « J'aurais dû... » Il n'acheva pas ce qu'il aurait dû. Le souvenir des douces conférences revenait avec leur parfum des premiers temps du Christ. Augustin s'était un jour excusé de ne pouvoir assister à l'une d'elles. Il se rappelait avec amertume que ça avait été la dernière. « Youyou, oh oh, caca !» hurlait Christiani. « Je compatis, je mène à traîne, je condole au deuil Tala !» Qu'est-ce que tu dis ? Demanda durement Augustin. Ce qui étonna Christiani, habitué à la manière bon enfant dont on prenait d'habitude ses plaisanteries. Il crut de son honneur de les continuer. Il regarda Augustin de bas en haut, à cause de sa taille ridiculement petite, supplémentée par de hauts talons. « La colombe savante est bien mal. Je porterai sur sa tombe une mesure de grain pur, dès que mes vénérables parents m'auront donné 3 drachmes. » « Ils le feront certainement, siffla Augustin, quand tu seras plus grand et mieux élevé. » Le nouvel aumônier parut après 2 mois. Il commença un cours qui n'intéressa personne sur l'encyclique de Léon XIII et les solutions économiques chrétiennes. Il était jeune, mal portant, il avait l'air d'un soldat blond blessé. L'archevêché lui donnait cette aumônerie pendant sa période de convalescence. Les études d'ancienne histoire religieuse ne reprirent pas. Elles n'étaient que retardées, pensait Augustin. Il faudrait bien un jour ou l'autre s'y donner à fond quand les tâches scolaires seraient terminées, et en particulier celle du concours. Il pointa enfin à l'horizon, après 8 nouveaux mois d'un travail régulier, un second joint naquit à l'encoche voulue sur la roue du temps. Augustin, souhaitant quelques heures de repos, descendit un jeudi par la rue Soufflot, brunie d'arrosage, odorante de bitume. Tout ce district appartenait aux étudiants en droit. Cette appropriation se marquait aux étalages. Des cours lithographiés de pandectes et de droit administratif reposaient sur de mornes volumes juridiques d'occasion, marqués de diverses macules de pluie et de sénilité. De vieux jeunes gens les feuilletaient en passant. Augustin traversa, comme à guet, l'intervalle entre le bassin du Luxembourg et les cafés des deux angles. En proie au dépavage chronique et au déplacement de rails, la rue imposait des sauts d'obstacles aux passants. Le Luxembourg offrait des plafonnantes verdures, la diversité des parterres, le passage de groupes criards, la gaieté du jardin bondé de jeunes filles et d'étudiants bien mis, tout ce mouvement coloré donnait à Augustin le spectacle d'une vie assez charmante et d'une jeunesse qu'il ne connaissait pas. Des allusions au café du quartier traversaient l'air. Les courses de Longchamp et d'Auteuil, des préoccupations d'examen, des noms de camarades, remuaient ensemble, mêlés de grands rires pleins d'insoucis et de banalités. Des retours ultérieurs en province se pressentaient, le souvenir de joies crues et fortes s'atténuerait lentement dans des études de notaire ou d'avoué ou des cabinets de médecins. La vie professionnelle laissait déjà passer par l'entrebâillement de ses fenêtres de gros espoirs de politique, de beaux mariages et d'argent. Des questions s'échangeaient sur des termes techniques. Les servitudes réelles, les naturelles, les légales et celles du fait de l'homme, nul ne doutait qu'elles existassent véritablement au sein des choses, comme des espèces chimiques ou des cristaux. Il s'agissait seulement de les décrire, de compter le nombre d'arêtes, 18 à 20 sans doute, dont les avait en les créant muni la nature. Augustin saisit également au vol des appellations d'un latin technique jamais bien expliqué dans ses dictionnaires et qui l'inquiétèrent. On parlait de « actio fiduciae directa et contraria » de « conditio certae pecuniae » comme il jetait un regard oblique sur un petit livre de droit élémentaire pour le reconnaître, en remontant la rue Soufflot, son dos fléchit sous un heur plat. 3 garçons riaient silencieusement. « Et il a fallu 2 ans pour qu'on le retrouve !» cria Marguillet. Il était élargi d'épaules, vêtu de clair, épanoui, avec d'inattendus détails de toilette, une cravaille feuille morte raffinée, un feutre élégant sur ses cheveux hirsutes de jadis. Tous les traits de l'ancien Marguillet se montraient les mêmes et différents, recoupés à d'autres gabarits, bénéficiaire d'une transfiguration discrète et somptueuse, teint d'une sorte de lumière. L'air plus jeune que quand il était jeune, il portait sur son front, ses yeux, ses lèvres, un ensemble de plaisir et de gloire, mêlé d'une 3e substance savoureusement complexe, une sorte d'essence parisienne, qui eut rencontré sa figure pour s'y poser, y fut restée, s'y trouvant bien. Il éclipsait, bien entendu, Appia et surtout Vaton qui le suivait comme son ombre. Augustin comprit tout d'une seule bouffée de mémoire. Marguillier, le grand Marguillier, Marguillier le maire et l'ancien avoué, Marguillier sans curé, était sénateur maintenant. Devant des bocs, au fameux café d'en face, ils se demandèrent ce qu'ils faisaient, entrechoquant les réponses au grand rire de leur jeunesse. Marguillier et Gustave, deux points, ouvrez les guillemets. Passé, ne parlons pas des absents. Présent, le droit, deuxième année. Option, ça ne vous regarde pas, vieux copain. Futur, ah voilà, secrétaire de Keukminis avant que ça ne lui arrive à lui-même. Appia, à ton tour. La médecine, mon vieux, première année. Appia se tut, ayant l'imagination courte et le culte du fait. Il était le moins changé des trois. Une modestie taciturne et calculatrice habitait ses yeux luisants. Quant à Vaton, c'était l'étonnement d'Augustin. Une barbe blond fauve, avec des coulées jaunes sereins, renouvelait son visage. Ignorant la direction et la densité dans lesquelles il convenait de croître, elle s'essayait de droite, de gauche, renonçait, revenait sur elle-même et se terminait vaporeusement. Vaton, au premier regard, semblait vieilli, désenchanté, revenu de tout, et en même temps d'une jeunesse prodigieusement neuve, étonné de l'univers, comme s'il eût mis toute son adolescence à s'apercevoir qu'il était splendide et qu'il s'en étonna d'un seul coup pour tout le temps passé. Alors, qu'est-ce qu'il fait, va-t-on ? Ah, des choses, dit Marguillier d'une voix céleste et veloutée, ses yeux blancs haussés vers la toile rayée de la marquise qui se comporta en l'occurrence comme un substitut de l'azur. Non, il ne fait pas des choses, dit Vaton. Il fait de la littérature. Il souriait à Augustin de ses yeux câlins et tendres, ravi de retrouver une ancienne amitié. Il souriait avec un grand charme de réserve, de rêverie et d'intelligente impuissance. Augustin comprit que la fraîcheur étonnée de son visage venait tout entière de ce regard. Cependant, les répliques se croisaient. « Des vers, mon vieux, il fait des vers, et il s'est débaptisé. Vaton tout court, connaît plus. Connaissons plus, lui-même connaît plus. Il s'appelle VV. Ces deux initiales, c'est pour Vaton Verlaine, une comédie lyrique, trois actes. Joué ? Méchant. Plus 23 422 autres vers, hors actes et scènes, indépendants, francs-tireurs. Publié. 45 d'entre eux l'ont été, et payés. Non, 28 seulement. Deux sonnets, c'est 28 vers ? Dit VV. Combien que tu as touché pour ces deux sonnets ? Vaton, désespérant d'arrêter ce flux, s'était retourné vers Augustin. Évidemment, il écrivait. Il préparait aussi sa licence et ses lettres, et il était surveillant d'internat dans une école secondaire ecclésiastique. En somme, trois zones concentriques et de plus en plus intérieures. Pion, étudiant, et la troisième n'a pas de nom. Vaton avait l'air d'émettre des mots trop légers pour se tenir en équilibre dans l'air. Il parlait du bout de lèvres paresseuses avec insouciance, plaisanterie, fierté et une sorte de riant désespoir. « Tu as vraiment publié quelque chose ou est-ce que Marguillier plaisante ?»« Des petites choses vagues dans des bouts de revue. » Vévé ne semblait pas du tout désireux de préciser. Où donc Augustin avait-il lu quelque chose de semblable ? Dans quel texte classique ? Il remuait des souvenirs incertains. « Tu te présentes à la licence en juillet prochain ?»« Non, évidemment. La Sorbonne a négligé de consulter les horaires de mon école de manière à placer l'explication des programmes dans mes temps libres. Simple oubli. »« Tu devrais essayer de passer une bourse de licence. »« Quand se passe-t-elle ? Et comment se fait-on inscrire ?»« Mon petit, » fit Augustin, fâché de n'avoir pu arrêter à temps l'appellation pitoyable, « cette insouciance te mènera à quoi ?» Oh, dit Vévé, avec une nuance de susceptibilité qui rappelait l'ancien Vatton, je ne cherche pas à arriver. Marguillet y suffit. T'en fais pas, dit Marguillet, j'arriverai pour deux. J'ajoute que Vévé n'a pas de maîtresse connue, dit Appia à voix haute et calme, en voyant l'interruption par-dessus la tête des autres causeurs, comme un objet qu'on fait passer. Augustin retrouva tout à coup le texte classique auquel il pensait en regardant Vévé. C'était du La Bruyère. Fédon a les yeux creux, il croit penser à ceux à qui il parle, il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur. Il parle bas dans la conversation, il articule mal, il attend qu'il soit seul pour éternuer. Il n'en coûte à personne ni salut ni compliment, il est pauvre. Tous les traits n'y étaient pas, mais il y en avait quelques-uns. Ils accompagnèrent Augustin jusqu'à son lycée, bavardant à grands éclats, le plaignant de se coucher si tôt, protestant que si on voulait les obliger, eux... C'était Marguillet qui criait. Il le faisait pour trois. Augustin ne trouvait pas désagréable, une fois en passant, cette mousse de plaisir légère, coloriée et sans consistance qui flottait pour quelques heures sur sa vie. Comme l'an dernier, l'écrit se passa pendant 8 torrides jours sous les toits de la Sorbonne. Augustin disserta sur une pensée de Pascal, exposa l'histoire des Pays-Bas de 1609 à 1715, confronta les jugements de valeur et les jugements de vérité, traduisit en grec une page de Fénelon et en français un passage du De Officiis, compara en latin Tite Live, Salluste et Tacite et attendit son destin. On écrivait sur de grandes feuilles sortant de l'imprimerie nationale avec les i barrés au milieu. La future chaleur du jour perçait la fraîcheur du matin. Les fenêtres s'ouvraient sur des toitures aux zinc inquiétants. À midi, on disposait sur le coin de la petite table, de chaque côté d'un chiffre blanc, la demi-bouteille de vin, le café, les sandwichs, réunis par l'économe, on déjeunait en se relisant. Augustin se plut extrêmement à l'histoire. Il retrouva Taine, Fromentin, Lefèvre Pontalis, et s'y épanouit. Mais il s'enchanta de la philosophie, montrant la compénétration de ces deux formes de jugement et les cas où la nature elle-même faisait des jugements de valeur. En latin et en grec, il les glissait, patineur de grand ordre, sur des surfaces lisses, là où d'autres haletaient et tombaient. Derrière lui s'agitaient les inquiétudes et les destinées. La chance jouait pour lui, comme elle fait pour tout l'effort et les bien préparés, ce en quoi elle joue dans les règles. « Ah, flûte !» cria Christiani, lorsqu'ils redescendirent dans la rue, la dernière composition terminée. « Allons-y !»« Où ça ?»« Au claque !» Le mot éclata au ras du sol dans la boue, à d'infinies distances de cette haute joie. Augustin passa l'oral après un mois et demi de terribles attentes vers le 3 ou 4 août. Sa dernière épreuve fut l'explication grecque. Tous ceux qui avaient déjà passé revinrent là pour l'entendre. Dans les couloirs circulaient quelques professeurs de première supérieure, dont le cher Poiret, qui semblait y retrouver chaque fois ses enfants. Des élèves de troisième année, en pleine agrégation, passaient avec une discrétion distante. On constatait, une fois de plus, l'extraordinaire sûreté d'Augustin dans l'explication improvisée. Assez loin des exercices scolaires habituels et rarement proposés, le texte, un cœur d'Eschyle, lui fut présenté dans une édition allemande sans notes. Le vieil helléniste maigre, à la pomme d'Adam pleine de poils, avait peut-être fait exprès de la choisir. À chaque traquenard tranquillement élucidé, on entendait, sobre et presque muette, des appréciations que le vieux savant énonçait comme pour lui-même. « Fort bien, monsieur, parfaitement vu !» Déçu, le sphinx s'allait suicider dans les roches. Quand ce fut fini, sans transition, « Ferez-vous du grec, monsieur, à l'école ?» Je n'ose trop l'espérer, avec des notes de philosophie comme les vôtres. Enfin, je vous remercie de cette explication, dit-il d'une courtoisie froide, d'où tout sourire était banni. Brühl passait 7e, Paulin Zeller 11e. Christiani restait sur le pavé, tête de liste des refusés. Augustin entrait premier. La tension des derniers jours avait été pénible pour tous, même pour lui. « Ne nous la fais pas à l'angoisse, » disaient ses camarades, « espèce d'infaillible, mécanique sans panne, cacique. » Terme dont on désigne le premier. Sous ces gros mots, capitonnés par en dessous et bourrés d'amitié, Augustin fléchissait, ému bien plus qu'on ne croyait. Quand la grande place arriva, le cacica illustre qu'avait occupé avant lui des personnages comme Taine, quand le vieil universitaire académicien qui dirigeait l'école eut servi aux admis le discours de haute pédagogie où il se plaisait, que le surveillant général à tête d'artiste triste y eut joint les détails pratiques, d'ailleurs répétés dans un imprimé, que tous se furent gavés du bassin intérieur et des quatre corridors autour d'un jardin morne, identique comme un seul devant quatre miroirs, Augustin se retira doucement, assommé, lourd, d'il ne savait quel poids écrasant. Gonflé d'émotions et de souvenirs, comblé d'une gratitude envers les siens déchirante et irrassasiée, en proie à un douloureux, insupportable bonheur, il tremblait de vertige comme s'il sentait sous ses pieds les aiguilles extrêmes d'une immense ascension alpestre. Il avait besoin d'appuyer sa tête et n'en pouvait plus. Il s'en fut, étouffant ses pas, dans le parloir qu'on trouvait à l'angle gauche du vestibule, entre la porte d'entrée et l'escalier du directeur. Il enfouit son visage au milieu des grands rideaux administratifs et sanglota dans leur poussière. La rue, quand il sortit, restait identiquement provinciale. Les grands événements n'y changeaient rien. Un marchand criait « Tonneau, tonneau !» Trois gros attelages aux queues nouées entraient au trot dans la vieille cour des omnibus. Tout cela demeurait étonnamment tranquille. Ni ce calme, ni sa pauvre joie lourde à porter, ni rien de tous ces événements ne lui semblait frapper la note juste. Rien ne présentait la vraie face des choses qui était qu'il venait simplement de s'élever de quelques marches pour mieux voir le seul paysage qui compta, celui des intérêts éternels. Restaient des dépêches à envoyer, le proviseur à remercier et les autorités du lycée. Le bureau de poste était tout voisin, au coin des rues d'Ulm et de Gay-Lussac. Un vieux dos familier, d'où pendaient les plis d'une jaquette, se hâtait vers leur carrefour. Augustin se jeta vers lui et le bon Poiret, virant au bruit, tourna son regard de père nourricier vers ce galop qui s'approchait pour le remercier et pour l'adieu. Sur le pupitre du bureau de poste, il souhaita d'écrire « Cacique, gratitude, immense tendresse ». Puis, quelque chose lui dit que ce n'était pas cela que l'employé de la rue Gay-Lussac devait lire, ni celui du plateau central. Immense tendresse, il n'avait pas besoin de savoir. Mais parce que ses mains à lui avaient besoin de l'écrire et ses yeux de le lire, il l'écrivit tout de même sur le papier de la poste, puis le déchira en petits morceaux. Il prit une autre feuille et mit simplement « tendresse ». Puis il sortit. L'après-midi finissait déjà, juste une petite nuance de soir dans le grand ciel d'or blanc. Un quart d'heure de prière aux religieuses réparatrices, à 5 minutes de l'école, coupa son chemin. La cordialité du jeune aumônier s'épanouit sur sa figure maladive. En entrant chez lui, Augustin venait d'y rencontrer Zeller. « Ah, je suis content de vous voir, » dit-il, « vous tombez bien. » Laissant échapper des confidences qui, vraisemblablement, n'étaient destinées qu'à lui-même. « Persuadez-le, » fit-il en montrant Zeller. Celui-ci se taisait, gêné, sans que l'aumônier vît cette gêne. Puis, le pli de sa lèvre se détendit et il accepta en souriant l'intrusion. « Voyez-vous ça ?» disait l'abbé. « Il ne veut pas entrer à l'école normale l'an prochain. » Augustin était muet de stupeur, et Paul un zéleur de résignation. L'aumônier, grand enfant, continuait, entendant un peu tard ce double silence. « Je puis le dire, n'est-ce pas ?»« Reste, Méridier, je te prie, » fit Zeller, comme Augustin s'excusait et faisait mine de s'en aller. « Je te demanderai seulement de t'en taire. » « Oui, » fit l'abbé, « votre ami veut entrer au grand séminaire tout de suite. Enfin, à la rentrée d'octobre. Je l'en dissuade. Dieu a besoin d'agrégés. Dieu a besoin de haute culture. Je lui demande en grâce d'attendre 3 ans. Ne m'en croyez pas si vous voulez, mon enfant. Allez à Saint-Sulpice pour y consulter des prêtres plus savants que moi et beaucoup plus sages. Je vous affirme que j'y connais des saints. De grâce, mon cher, mon bien cher enfant. » Augustin restait écrasé, immobile. Une lente lumière montait et éclairait en lui tout ce qui, de Zeller, était méconnu. Elle illuminait par le dedans le sens de cette absence d'acharnement dans l'effort et de cette indifférence apparente au succès final dont parfois l'on s'étonnait. Dans l'âme délicate et vite fermée de Paulin Zeller, les confidences s'étaient taries. Augustin eût aimé passionnément pénétrer plus avant, chercher où, quand et comment ses désirs lui étaient venus. Plus tard, beaucoup plus tard, quand il eut en main les notes intimes de son ami, il y lut « Je m'accuse d'une réserve bien trop grande à l'égard de ceux que Dieu a mis sur mon chemin, d'une réserve à fond d'orgueil. » Le grand séminaire, je vous assure, monsieur l'abbé, est déjà pour moi un effort. Bénédictin, oratorien, trappiste même, tel est mon attrait. J'y ai vu jusqu'à présent assez naïvement la volonté de Dieu. Je consulterai Saint-Sulpice suivant vos conseils. » Et comme l'aumônier fermait les yeux, « La haute culture, je n'ai jamais senti avec une plus claire violence le dégoût de l'idole. » Tel fut le commencement de la nouvelle vie. Dès les premiers moments, non de son fait, mais des circonstances, elle se compara pour Augustin à quelque chose d'autre et plus noble, hors de ses prises et de ses désirs, mais non pas de ses nostalgies. L'express de nuit l'emmena dans ses fraîches troisièmes. Dès que fut terminé le tassement des voyageurs, le choix des coins et le dépouillement des faux cols, le sens intérieur des martèlements rythmiques commença de s'offrir à ses rêves.